Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi. Vous le savez, le mois de mai, il y a plusieurs personnes qui célèbrent le mai poil, donc une célébration de la pilosité féminine. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ben pourquoi est-ce qu'on considère que le poil sur le corps d'un homme c'est beau et que le poil sur le corps d'une femme c'est dégueu? Je suis désolée, je n'arrive pas à me faire à l'idée que du poil en dessous des aisselles c'est magnifique ou que du poil sur des jambes on doit réciter de la poésie quand on en voit. Personnellement, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Je suis désolée, mais je vais continuer à penser que du poil sur les jambes et en dessous des aisselles d'une femme, c'est pas très joli. Si vous êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais je maintiens mon opinion. Quand je vois une valorisation du poil sur les jambes ou du poil en dessous des aisselles, je pousse un très amusé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Au mois d'octobre cette année, à la salle de théâtre Le Jésus, on va vous présenter une pièce de théâtre qui promet d'être absolument percutante. Ça s'intitule Verdict. Il va y avoir sur scène Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Et chacun leur tour, ils vont reprendre des plaidoirie célèbre de causes judiciaires vraiment très connues qui ont eu un impact social sur la société québécoise ou canadienne. Et il a fallu des gens pour passer à travers différentes plaidoiries et en faire une pièce de théâtre. Ces personnes-là sont Yves Thériault et Nathalie Roy. Ils sont tous les deux au bout de la ligne. Bonjour Yves, bonjour Nathalie.
Bonjour Sophie.
On se connaît dans la vie de tous les jours, on fera pas semblant qu'on se connaît pas, donc on va se tutoyer. Yves et Nathalie, comment c'est né cette idée-là d'adapter, parce que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, comment c'est né cet intérêt-là pour les plaidoiries célèbres?
L'idée est de Luce et Lucie Roson, qui sont les agents doubles. Ce sont deux productrices qui produisent des pièces de théâtre. Et elles ont suggéré de faire ça au Québec avec des plaidoiries célèbres. Et comme Yves et moi, on est dans la vie des journalistes qui s'intéressent beaucoup aux affaires criminelles et qu'on connaît Luce et Lucie dans la vie, elles nous ont suggéré de prendre cette idée-là et de travailler avec elles sur ce projet-là. Alors, c'est un peu comme ça que le projet est né.
Alors, Yves et Nathalie, donc, oui. Vous voulez le dire, vous êtes tous les deux, vous êtes des journalistes à la base, documentaristes. Yves aussi, t'as écrit des livres sur le système pénitentiaire, Tous dehors. Donc, vous avez une connaissance vraiment, non seulement du processus d'un procès, mais de tout ce qui est criminalité. Donc, ça vous donne un avantage certain quand même.
Oui, ben à l'époque où on a commencé à travailler sur le projet, moi je produisais une série qui s'intitule Les coulisses du palais,
oui.
qui était diffusée à l'époque à Canal D et où on montrait un peu le fonctionnement de l'appareil judiciaire de l'intérieur et on avait obtenu des autorisations exceptionnelles là, de mettre les caméras dans les salles de cours, d'avoir accès aux aires réservées pour faire des entrevues avec les juges et d'autres officiers de justice. Donc, c'est vrai que au cours des dernières années, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui touche le système judiciaire. Et aussi, Nathalie et moi, on a créé ou Nathalie a réalisé des séries policières aussi. Donc, on baigne là-dedans depuis des années. Et donc, c'est comme ça que les productrices nous ont approchés. Et notre travail, nous, consistait à identifier ses plaidoiries et ses idées d'en retrouver les textes, parce que c'est Sophie, une plaidoirie, ça peut durer, dépendant des avocats, 2 heures, 3 heures, même dans certains cas, 2 jours, 3 jours. Wow. Nous, notre travail consistait à ramener ces textes-là, des plaidoiries, à des textes plus courts, de 10, 12, 14 minutes, en conservant l'essence des textes, Et l'essence des arguments aussi. Et Nathalie pourra préciser un peu le genre de plaidoirie qu'on a essayé de trouver là pour meubler ce spectacle-là.
Vas-y, Nathalie.
Oui, bien, en fait, ce que je trouvais intéressant aussi de cette idée-là, c'est qu'à travers ces plaidoiries-là, on visite l'histoire du Québec. On prend des plaidoiries qui ont un sens, qui ont eu un impact sur la société, comme tu l'as dit. Donc, par exemple, l'affaire Henry Morgan Taylor, on sait que oui. Ce médecin, dans les années 70, a été poursuivi à la cour pour faire des avortements. Et nous, on a pris la plaidoirie de l'avocat qui défendait Morgan Taylor. Donc, à travers sa plaidoirie, donc à travers une petite histoire, parce que la plaidoirie est articulée autour d'une femme qui a reçu les services du docteur Morgan Taylor. Donc, à travers cette histoire-là, on connaît l'histoire de l'avortement, comment c'est arrivé au Québec, le droit des femmes à l'avortement.
Et dans la puis surtout actuellement, ben oui.
Exactement. Et bon, on a fait ce choix-là il y a quelques années, mais parce que ça fait quelques années quand même qu'on travaille là-dessus. Ça a été très long de trouver les plaidoiries. Sophie, notre système judiciaire au niveau des archives, c'est un bordel assez... Ah oui, il y a des choses...
C'est pas informatisé.
Non, exactement. Alors ça, par exemple, c'est une plaidoirie qu'on a réussi heureusement à trouver. On a eu la collaboration de plusieurs avocats aussi qui parfois, eux, avaient gardé leurs textes ou même leurs enregistrements mécaniques. Donc, on a écouté ça. Et oui, on fait un résumé. Donc, on prend... je pense que Morgan Taylor, c'était 3 heures environ. On le ramène à une quinzaine de minutes parce que dans le spectacle, il y a 5 causes et 6 plaidoiries.
À la fin, les productrices insistaient pour que le dernier procès, on essaie de trouver un procès où les 2 plaidoiries, autant pour la défense que pour la couronne, soient percutantes. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé un procès criminel. Je veux pas trop identifier le procès en question parce que je veux pas vendre la mèche. Mais en fait, c'est qu'on va entendre les 2 plaidoiries. Et là, on va inviter les gens dans le public à voter pour ou à rendre leur verdict, en fait. C'est comme s'ils étaient membres d'un jury pour voir que à la lumière des plaidoiries qu'ils auront entendues, quel verdict ils auraient rendu.
Ça, je trouve, c'est génial.
Ça va être intéressant, ça va être très participatif, oui.
Oui, et ça, c'est génial. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est que donc, 2 comédiens qu'on adore, Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet, vont donc dire ces textes-là, incarner ces textes-là. Et c'est là qu'on va voir à quel point, justement, quand un avocat est en train de faire sa plaidoirie, il y a un côté très théâtral. Des fois, on ridiculise ça ou on dit, bon, c'est des effets de toge et tout ça, mais il reste que quand un avocat est devant un juge ou qu'il est devant un jury, ben il faut qu'il mette tout son pouvoir de conviction, pas juste avec les mots qu'il utilise, mais avec la façon dont il les dit. Et ça va être drôlement intéressant de voir le travail de Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet.
Oui, et on s'est beaucoup amusé. Nous, moi, j'avais jamais écrit de pièce de théâtre, mais je me suis quand même amusée à mettre ce qu'on appelle des didascalies. Oui. Des indications pour le metteur en scène, pour le directeur artistique. Après ça, ça leur appartiendra. Je me suis inspirée un peu, oui, d'avocats qu'on voit, et c'est pas seulement dans les films, hein. Yves a assisté à plusieurs plaidoiries, moi à quelques-unes. Puis en effet, tout d'abord, il doit raconter une histoire, il doit aller vers l'émotion, parce que c'est pas seulement par les faits. Et on a, avant de choisir des plaidoiries, on en a lu beaucoup, parce que parfois, justement, c'était que des points de droit. Alors ça, c'était pas intéressant. Ouais. Et ce qui parle beaucoup, c'est les images. C'est quand l'avocat est capable d'imager une idée, par exemple, ou de faire en sorte que, là, ça va être le spectateur, mais ou ça peut être les jurés, comprennent par une comparaison, par une métaphore, parce qu'il y a pas, quand il y a une plaidoirie, il y a pas de photo, il y a rien de ça, là. C'est que l'oral. Alors, ça va permettre... En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ils vont faire la mise en scène, parce qu'il y a plein de possibilités, finalement.
Mais est-ce que tu dis des choses extrêmement importantes, Nathalie. Tu parles évidemment de l'émotion et tout ça. Et en même temps, la force d'une plaidoirie, c'est sa force d'argumentaire. C'est que des fois, quand on écoute des grands avocats, on se dit « Oh mon Dieu, il a réussi à synthétiser », parce que c'est à la fin, évidemment, du procès, le moment de la plaidoirie, de résumer peut-être des fois des jours et des jours d'interrogatoire, de preuves, de résumer ça en une phrase avec un argument, parce que c'est convaincre, c'est pas juste avec des émotions, c'est des arguments. Donc, il y a certains, dans le tri que vous avez fait, il fallait trouver des avocats qui utilisaient des bons arguments, Yves.
Oui, puis il y a des plaidoiries qu'on aurait aimé incorporer au spectacle, mais qui étaient difficiles à résumer, parce que, évidemment, dans leur plaidoirie, tu l'as bien dit, Sophie, les avocats doivent reprendre les faits, donc le récit de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit dans les témoignages qui ont été entendus pendant le procès. Et donc, ça prend un certain temps. Et si le spectateur n'a pas assisté au procès, on peut lui faire un genre de résumé des faits avant que le comédien commence sa plaidoirie. Mais dans certains cas, c'était trop long, c'était trop compliqué. On n'aurait pas compris un peu pourquoi l'avocat invoquait ces arguments-là. Fait qu'il y a malheureusement des procès qu'on a dû mettre de côté. Il y en a d'autres qu'on souhaitait faire, parce que on souhaitait, par exemple, avoir une cause où un avocat défendait l'indéfendable, par exemple, parce que ça fait partie du travail des avocats.
Bien sûr, les criminalistes,
oui. Oui, tout à fait. Et on a cherché beaucoup la plaidoirie de Maître Guy Bertrand dans le procès de Léon Muguzera. Tu te rappelles cet animateur de radio rwandais là, qui avait incité les gens au génocide, puis qui s'est réfugié au Québec. Puis il y a eu des années de procédure parce qu'il voulait pas être extradé. Et malheureusement, un peu à cause de l'état de nos archives, mais aussi à cause de la pandémie, faisait en sorte qu'on n'avait pas accès à certaines archives. On n'a jamais pu retrouver le texte de cette plaidoirie. Mais on en a d'autres qui sont super intéressantes, comme par exemple,
je suis pas inquiète.
La plaidoirie de Maître Alphonse Goldwater au début des années 2000. Il y avait eu un procès pour le droit au mariage des conjoints de même sexe. Alors, c'est une cause qui a fait époque. Et c'est des causes comme ça là, qui ont marqué un peu l'histoire et l'évolution sociale québécoise.
Alors, on va voir Marie-Thérèse Fortin, parce que j'imagine que vous allez prendre que ça va être une femme qui va reprendre donc le plaidoirie d'une femme. On va voir Marie-Thérèse Fortin qui va citer du Alphonse Goldwater. Ça, c'est drôlement intéressant, parce que t'as oublié de mentionner, parmi toutes tes expériences dans le domaine judiciaire, aussi, t'as travaillé, bien sûr, sur l'arbitre avec Maître Goldwater. Parmi les sujets qui sont abordés, c'est vraiment extrêmement intéressant. Tu viens de le mentionner, Yves, le droit au mariage gay. On a parlé tout à l'heure avec Nathalie de la légalisation de l'avortement. C'est là qu'on mesure aussi tout le chemin qui a été parcouru. Parce que si la société québécoise a pu évoluer, c'est justement parce qu'il y a eu des avocats brillants qui ont fait des plaidoiries brillantes et qui ont réussi donc à convaincre soit des juges ou des jurys de faire avancer la société. Donc c'est pas juste un spectacle de théâtre, c'est un spectacle aussi avec une portée sociale extrêmement importante.
Extrêmement importante, et on aborde aussi la question autochtone, qui est très d'actualité et qui, elle aussi, avec le cas de Joyce Echaquan, va nous permettre également c'est un peu différent, parce que c'est pas une plaidoirie cette fois-ci, c'est une représentation lors de l'enquête de la coroner, mais c'est le même principe. Donc, on a décidé de l'inclure, il va y avoir une petite explication, et on a inclus une plaidoirie qui vise beaucoup la réconciliation des deux peuples.
Très intéressant.
Et c'est beau. À travers ça, je pense que c'est un spectacle qui est aussi dans la bienveillance. On veut que les gens sortent de là un peu grandis aussi, qu'ils se disent « OK, oui, parce que parfois on juge très sévèrement notre société, mais voici ce qu'on a fait et voici ce qu'on peut faire encore. »
Alors, ouais. Ça fait la réflexion. Mm-hmm. Oui, tu dis « on juge très sévèrement la société ». Je pensais que tu t'en allais dire « on juge très sévèrement le système de justice hein. ». On entend beaucoup parler au cours des dernières années, bon, je pense évidemment au documentaire « La parfaite victime », mais je pense aussi de façon générale un certain cynisme par rapport au système de justice. Cette impression, bon, par exemple dans les cas des sentences bonbons, ou l'accès même à la justice, c'est très critiqué. Est-ce que vous pensez tous les deux que après avoir vu ce spectacle-là, que les gens vont peut-être développer un certain respect pour les avocats de la poursuite de la défense ou pour le système de justice en général, Yves?
Ben, j'espère que oui. En même temps, il faut comprendre que notre système de justice est bâti sur un système en fait qui oppose beaucoup, qui est deux versions dans quand il y a des procès et les avocats donc épousent un parti ou l'autre et donc font valoir leurs arguments, donc c'est évidemment très très partisan l'approche de la plaidoirie, mais puis c'est pour ça qu'on aimait beaucoup l'idée à la fin d'opposer là la défense et la couronne dans un même procès. Parce que les avocats ont un travail à faire. Mais je pense que ça va permettre peut-être de mieux comprendre le travail des avocats.
C'est vrai.
Est-ce que les verdicts sont parfois surprenants? Oui. C'est certain qu'aujourd'hui aussi, on permet moins les effets de toge dans une cour de justice. Les juges sont moins tolérants pour ces grandes envolées oratoires.
On va devoir se quitter là-dessus, Yves et Nathalie. On aurait pu en parler pendant des heures. Vous connaissez, je pense, une passion qu'on a en commun, autant pour le théâtre que pour la chose juridique. Alors, c'est évidemment dans très longtemps, mais c'était important d'en parler maintenant pour que les gens puissent connaître tout ça. Donc, ça va être présenté en octobre au Jésus, dans le quartier des spectacles de Montréal, avec Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Ça s'intitule Verdict. Et c'est vous deux, Yves Thériault et Nathalie Roy, qui étiez en charge de l'adaptation de cette pièce de théâtre. Merci beaucoup et on a déjà hâte au mois d'octobre.
Merci beaucoup, Sophie. Merci. À bientôt.
Et c'est un rendez-vous à la première.
Parfait, merci.